Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, on est de retour dans les grandes gueules du sport pour notre plus grand plaisir. C'est votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. Si vous avez raté la première heure, nous avons parlé de Roland Garros, de nos Français, nous avons évoqué l'affaire Vinicius, l'affaire de racisme en Espagne. N'hésitez pas à aller nous télécharger en podcast, toujours ce matin, avec Marie Martineau, Marion Bartoli, Stephen Brun, Simon Dutin. Dans quelques instants, le bras de fer des GG autour de l'affaire Marine Johannes qui secoue le basket français. 10h30, un homme heureux, Pierre Amiche, oui, c'est une première, veut nous parler du PSG. C'est même pas moi, c'est lui qui veut nous parler du PSG et de la situation de Christophe Galtier. Et puis 11h, nous passerons la seconde avant le 80e Grand Prix de Monaco de l'histoire et Charles Leclerc maudit sur ses terres. Croyez-vous au blocage psychologique? Et puis ne manquez pas votre séquence dans les grandes gueules du sport. Le guet-apens pour vous, les GG. Le fameux débat caché, vous ne savez rien et pourtant il va falloir débattre. Vous pensez à quoi? Quel est votre feeling, votre flair? Marion Bartoli.
J'ai aucune idée.
Aucune idée?
Non, vraiment, ok.
Il n'y a rien?
Non, je ne sais pas. On a fait le tennis, on a fait le basket, on a tout fait. Si je te dis, il reste quoi? Okay. Du golf? J'ai vu qu'il y avait du golf hier sur un Canal Plus Sport.
Il y a du golf toutes les semaines. Bon, là, c'est pas un majeur. Je vous en parlerai peut-être à 10h40 de golf. Stephen, on va parler de quoi?
Moi, j'ai bien une petite idée, j'y sais.
Ouais.
Vas-y.
L'Olympique de Marseille, il y a 30 ans, a-t-elle vraiment gagné la Ligue des Champions?
Je vais te frapper. T'es à ma gauche, je vais te frapper.
Et on va faire tout ça avec Eric Dimeco et avec tous les Marseillais pour savoir ce qu'ils sont en France. Ok, très bien, c'est une bonne piste. Marie Martineau.
Alors, moi, j'en ai tout plein. La sortie de Cantona, le foot français n'a pas d'histoire. Est-ce que réellement le foot français n'a pas d'histoire? Pour rester sur le foot, Cascarino absente du mondial car rupture des ligaments croisés. La France, les Françaises ont-elles encore, peuvent-elles encore rêver du titre?
Je nous fais un conduit, là, en fait.
Non, mais j'en ai plein, j'en ai d'autres. On n'a pas parlé de Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, étape de fou aujourd'hui. Peut-il retourner chercher le maillot de meilleur grimpeur, voir le maillot rose, pourquoi pas, tu vois. Enfin, on peut partir sur plein de délires.
Oui.
Alors, allez, dis, j'en ai un.
J'adore Thibaut Pinot, mais le maillot rose, là, oui, il faut au moins une épidémie de gastro.
On sait pas,
Simon Dutin, tu penses à quoi?
Pour te faire plaisir, Brooks Koepka peut-il égaler Tiger Woods un jour? C'est du golf, évidemment. Ouais. Et effectivement, un peu comme Marie, si Thibaut Pinot nous claquait un top 5 au Giro, serait-ce un exploit Giro réussi ou une déception?
Ok. On y va fort dans les questions comme ça, nous?
Non, sur le débat caché. Sur le débat caché, on est quand même sur la légèreté. Hein.
Quand tu parles de légèreté, tu veux dire des débats vraiment dont on se fout?
Un peu de nièvre.
Oui, oui.
Le possible.
Oui.
Il va vous régaler et ce sera dans une demi-heure. Restez bien avec nous. Les artistes entrent dans l'arène. La décision est donc tombée. Froide. Le staff de l'équipe de France de basket a décidé d'écarter Marine Johannes en vue de l'Euro 2023 qui va se disputer dans quelques jours. L'une des leaders des Bleus paie un aller-retour aux États-Unis pour paraffer son contrat avec son équipe de WNBA. Pour tout comprendre sur cette affaire, notre spécialiste basket de la rédaction des RMC Sport est avec nous, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Bonjour tout le monde.
Salut Arnaud.
Alors quelles sont les raisons de ce divorce, Arnaud?
Le staff de l'équipe de France a fixé une règle simple il y a plusieurs mois. Toutes les joueuses appelées en sélection doivent être présentes le premier jour du rassemblement. 13 entraînements prévus du 26 mai au 15 juin, début de l'Euro, 5 matchs amicaux. Et le staff juge que ce laps de temps est beaucoup trop court pour bien préparer cette compétition. Donc tout le monde doit être là dès le début. Sauf que dans le même temps, la WNBA, la Ligue Nord-Américaine de basket féminin, impose aux joueuses qui viennent jouer là-bas l'été d'être présentes pour le coup d'envoi de la saison qui a lieu en ce moment. C'est donc une confrontation directe des calendriers. Car lundi dernier, Johannes est championne de France avec l'ASVEL et le mercredi, elle est convoquée à l'INSEP en rassemblement. Problème, elle veut faire un aller-retour à New York pour paraffer son contrat et répondre aux obligations. Et un tel trajet, c'est pas seulement un aller-retour, elle doit rester au moins 5 jours et un tel trajet la ferait revenir que le 6 juin avec l'équipe de France, soit moins de 10 jours avant le début de la compétition. Ça, ce sont les faits et l'avis du sélectionneur Jean-Aimé Toupane qui assume clairement sa décision.
Marine Johannes, on ne la prive pas de l'équipe de France. On ne lui a pas fermé les portes de l'équipe de France. Marine, on sait la joueuse qu'elle est. On a toujours souhaité qu'elle soit là. Et comme j'ai eu à discuter avec elle un peu 2-3 jours, je comprends sa décision. Sa décision qui est de partir. Elle était tiraillée, l'équipe de France, la WNBA. Mais moi, mon principe, il est simple. On veut quelque chose de grand. On veut dire qu'on veut être championne d'Europe.
après 5 finales perdues de suite. Exercice de communication pour le sélectionneur qui remet quand même un peu la faute sur la joueuse. Du côté de ses coéquipières, dont plusieurs le sont en club, Alexia Chartereau et la capitaine Sandrine Gruda. Cela fait plusieurs mois que la donne est claire au sein des Bleus. C'est pour cela que c'est compris et respecté, même si cela n'empêche pas d'avoir un avis sur la question, comme pour Sandrine Gruda.
J'aurais laissé Marine partir une semaine et je l'aurais reprise dans le groupe juste après. Encore une fois, hein, je vous dis, hein, je comprends aussi le positionnement d'Aimé Tsupane qui a une préparation courte et qui a besoin de faire un choix clair. Voilà, il y a des enjeux, c'est un championnat d'Europe, il a besoin de s'entraîner avec nous et je comprends les deux parties, aussi bien la joueuse que ici le staff. Donc il n'y a pas de problème.
Et quant à un supposé ultimatum lancé à Joannès, si tu fais pas l'Euro, tu fais pas les JO, la manager générale des Bleus, Céline Dumerc, a répondu « chaque chose en son temps, il y a d'abord l'Euro ». Elle n'a pas non plus clairement démenti, c'est le président de la Fédération dans les colonnes du Parisien, Jean-Pierre Sutat, qui laisse la porte ouverte à Joannès pour les JO. Joannès, on rappelle, une joueuse au talent offensif inégalé en France.
Une affaire qui fait beaucoup, beaucoup parler, on s'en empare dans les GG, merci beaucoup Arnaud Valadon. Tu restes avec nous pour ce débat si tu veux ajouter des petits points très importants de règlement. Dans quel camp êtes-vous les GG? Vous avez entendu le son de cloche des deux parties. Dans le coin gauche, la team je soutiens Marine Joannès, Stephen Brun, Marion Bartoli, Simon Dutin. Vous l'aurez compris, dans le coin droit, elle se retrouve toute seule, mais ça ne lui fait pas peur. Marie Martineau, c'est parti pour le bras de fer des GG.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
RMC.
Les grandes gueules du sport.
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Et vous êtes nombreux à voter depuis ce matin sur le compte des grandes gueules du sport. Est-ce que vous soutenez Marine Joannès ou plutôt le staff de l'équipe de France? Alors, bon.
Ah oui, c'est serré.
Voilà, Marie, voilà, tu. Non. Je dois vous avouer que
on
c'est
jamais vu ça,
extrêmement
départ,
serré.
Bras
de fer, ouais. Je pense qu'on n'a jamais vu aussi serré pour un bras de fer. Tu vas quand même commencer, Marie. parce que pour l'instant, nous sommes. Mais ça peut changer, hein, parce que c'est vraiment une courte tête. Hein. 92% voilà, pour Marine voilà. Joannès. 8%. Mais il y a quand même 8%.
Non, de... Eh oui, pas très surprenant.
Marie Martineau, 8%. Sont avec toi, tu es derrière, c'est vrai, mais tu peux débuter, expose-nous ton argumentation et ensuite, eh bien, peut-être que tu vas faire changer d'avis les GG. Marie, tu commences sur ce dossier.
Oh non, j'ai de grands doutes sur le fait de faire changer d'avis ni les GG, ni nos auditeurs. Je pense que c'est le genre de débat cristallisant qui fait que tout de suite tu prends un parti et tu n'en changeras pas, tu ne chercheras même pas à essayer de comprendre pourquoi cette décision a pu être prise par le staff.
Tu sais quoi? Moi, je veux bien me laisser convaincre.
Ok, je l'attends. Moi, je crois que Marine Joannès a fait un choix, le choix de la WNBA, et pourquoi pas, sur ce coup-là, faire ce choix-là. Enfin, je veux dire, les raisons, le cadre était posé, et je veux dire, on ne l'a pas pris au dépourvu comme ça, on ne lui a pas coupé l'herbe sous le pied. Elle savait très bien qu'en faisant ce choix-là, elle ne jouerait pas l'Euro. Bon, moi, je n'en veux pas du tout d'avoir fait ce choix. Elle a certainement raison d'aller signer son contrat et faire ses obligations à New York. Je comprends aussi que le coach qui a déjà peu de temps pour préparer son équipe avant l'Euro soit pas super chaud de la réintégrer au dernier moment comme ça, 6 jours avant le match contre l'Allemagne. Donc je crois qu'on en fait nous tout un foin, alors que finalement il y a peut-être pas tant de choses à raconter autour de cette histoire. J'aime la prise de parole de Sandrine Gruda. Je trouve que c'est assez mesuré et que c'est ces jeunes filles ont besoin en équipe de France voilà, qu'on leur lâche la grappe et qu'on arrête aussi de mettre en doute leur capacité de réussite si Joannès n'est pas là. Enfin, il y a un moment donné, ça suffit là, stop. Ces filles-là vont aller jouer leur Euro et ça me ferait trop plaisir, mais alors trop plaisir qu'elles le gagnent, et ça ne remettra pas en question la présence de Marine Joannès ou pas.
Voilà. C'est l'argument des joueuses, Sarah Michel qui était agacée
qu'on
lui parle, il n'y a pas Joannès, alors vous savez, c'est un peu le jeu médiatique, et elle rappelle à juste titre qu'il n'y a jamais une campagne de l'équipe de France féminine sans joueuse absente, souvent pour des blessures. Là, c'est un autre cas. Donc, c'est toujours une équipe de France qui
passe avec son capital. Juste pour finir, je respecte son choix et j'ai en tête un interview sur une chaîne qui parle très bien du sport quand il s'agit de faire des interviews, d'elle, qui disait je n'ai pas du tout envie d'avoir l'étiquette de numéro 1 de l'équipe de France, ça ne m'intéresse pas. Et je la trouvais très sincère dans sa façon de le dire. Et donc, je pense qu'elle nie. Elle abandonne abandonne ses copines d'équipe de France, ni elle a envie qu'on continue à parler d'elle comme la tête de proue de cette équipe. Voilà.
Ok, basta, fini cette histoire. Ouais. Maintenant, place à l'Euro. Ok, j'ai bien compris ton argumentation et franchement, ça se tient. Et peut-être que Marie vous a convaincu. N'hésitez pas à aller voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport. Je sentais que Marion Bartoli voulait réagir. Vas-y, Marion, pour toi, tu es dans le camp de Marine Joannès.
Mais totalement. Et je pense que la fédération commet une erreur majeure et je ne comprends. Mais alors, ça me rappelle tellement la fédération de mon sport où t'as des espèces de règles comme ça gravées dans le marbre où surtout pas il faut se désavouer parce que oh là là, la maison est tellement au-dessus de n'importe quel. Mais ça me rappelle tellement ça. Et ça me rappelle les pires années de la fédération. Et heureusement, la FFT a totalement évolué là-dessus. Aujourd'hui, il y a les parents qui sont acceptés en équipe de France, Caroline Garcia avec son père, son coach. Et heureusement que ça s'est ouvert. Ça me rappelle les pires années de la Fédé en tennis. Pour moi, ils font une erreur majeure pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une joueuse qui est capitale dans cet effectif. Deuxièmement, il faut arrêter de me faire croire que c'est des rassemblements en équipe de France, ça va les faire évoluer leur jeu et que tout d'un coup, le coach va les faire passer dans un univers encore différent en termes de niveau. Les filles, elles arrivent avec leur niveau. C'est simplement un petit peu la cohésion de groupe et passer du temps ensemble.
Mais non, mais c'est la base du sport collectif, mais la comment, cohésion,
Mais elles font ça tout au long de l'année dans leur club. Ça va pas révolutionner parce qu'elles vont arrêter 4
d'individualité. Je crois pas que l'équipe soit une somme d'individualité.
Tu verras, la Dream Team en 92, c'était pas une somme d'individualité quand ils ont gagné et qu'ils mettaient 50 points à tout le monde. Pour moi, c'est ridicule du début jusqu'à la fin. La fille, elle était en pleurs alors qu'elle venait gagner le championnat de France lundi, où tu vois très bien qu'elle est hyper mal. Éventuellement, en plus, tu lui fais planer les JO parce que, oh là là, la fête est tellement au-dessus de tout que aucune joueuse ne peut être au-dessus de ça. Et donc, on te déjecte de l'Euro et on déjecte éventuellement des JO. Ça en devient ridicule. Pour moi, ils ont fait une faute majeure. Ils doivent revenir en arrière. Malheureusement, ils ne le font pas. Mais
maintenant, ils ne le font pas. Arnaud, je parle sous ton contrôle. Il n'y a aucune prise de parole de la Fédé officielle qui dit qu'éventuellement, elle serait privable des Jeux Olympiques.
La manager générale n'a pas démenti et derrière, le président dit on lui laisse la porte ouverte. Mais
on sent qu'on est sur du sable mouvant.
C'est quand même pas non plus limpide.
Mais là, je changerais peut-être un peu mon fusil d'épaule. Mais j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé ça. Donc,
C'est ce qu'ils ont déclaré dans la semaine, en tout cas.
Stephen, il y a matière à scandale ou pas ?
Écoute, déjà, ce qui est dommageable, la situation est dommageable, déjà, que ce soit pour l'équipe de France et pour Marine Joannès. Et moi, ce que je trouve surprenant, c'est que d'un côté, on a Jean-Aimé Toupane et Céline Dumère qui disent, nous, Marine Joannès, on la voulait dans l'équipe. Et de l'autre côté, Marine Joannès qui dit, moi, je voulais jouer en équipe de France. Et,
Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, je suis bien d'accord avec toi.
Et au final, Marine n'est pas là. Donc, je pense qu'il nous manque peut-être quelques éléments, parce que moi, cette histoire, elle me paraît inconcevable, en fait, de se priver de Marine, alors qu'elle avait la possibilité d'être là.
Mais c'est ton sport, Marine, ça se tient, là, le côté des entraînements, elle va rater 3-4 entraînements, on n'a pas beaucoup de temps de préparation, tout ça.
Ça peut se tenir pour un coach de dire, il y a très peu de séances d'entraînement et il faut que tout le monde soit là. Maintenant, Marine n'est pas une néophyte en équipe de France, n'est pas une néophyte avec Jean-Aimé Toupane, puisqu'elle avait fait toute la préparation l'année dernière pour la Coupe du Monde avant de devoir déclarer forfait pour blessure. Marine est en forme, c'est pas comme si ça faisait 3 semaines qu'elle n'était plus en compétition, puisqu'elle a été championne de France il y a quelques jours. Donc, en plus, j'ai en mémoire par le passé une arrivée tardive de Céline Dumère à un rassemblement. Moi, j'ai côtoyé dans l'équipe de France des grands joueurs NBA qui devaient s'absenter en plein milieu de la prépa pour des obligations marketing. Et à partir du moment où le groupe accepte ce genre de choses-là, et j'ai l'impression que, à écouter Sandrine Gruda, qui avec Céline Dumère est la plus grande joueuse de basket de l'histoire, qui elle aurait été d'accord que Marine s'absente et revienne, j'ai l'impression que c'est le cas. Marine Fautou aussi aurait été d'accord. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de, tu vois, c'est à partir du moment où le groupe est au courant, il n'y a pas de blocage en disant oui, il n'y a pas de problème, Marine a fait ses trucs, elle revienne. Moi, quand je vois que chez nous, les garçons, on est prêt à attendre un garçon comme Joël Embiid, à qui on a filé un passeport, qui ne va peut-être jamais jouer aucune compétition avant les Jeux, mais qu'on se met à genoux devant lui parce que c'est un joueur hors norme pour qu'il soit là. Marine Joannès est une joueuse hors norme.
Non, mais qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, je le conçois, c'est clairement le cas, mais je ne trouve pas que ce soit injuste. Ce qui serait terrible, c'est qu'il y ait une différence d'équité entre des femmes et d'autres femmes au sein du collectif féminin géré par une même personne. Tu vois ce que je veux dire, on pourrait discuter de ça, de la différence entre le traitement des garçons et des filles.
Oui, mais il y a un président de fédération française de basket qui gère les garçons et qui gère les filles. Donc ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de tolérance pour les garçons et un peu moins chez les filles. Maintenant, je vous le dis tout de suite, le problème c'est que Jean-Aimé Toupane et Jean Persuta se sont mis qu'un seul objectif en disant on veut être champion d'Europe. Attention, parce que le Boumang, il va revenir très vite. Hein. Ouais, ça veut dire que finaliste, c'est pas bon. Demi-finaliste, c'est pas bon. Quart de finaliste, c'est pas bon. Et j'ose espérer, parce que moi, j'adore toutes ces filles qui composent cette équipe, qu'elles vont être championnes d'Europe. Maintenant, vous êtes amputé de Marine, plus Gabby Williams, dont on n'a pas parlé, qui est blessée, qui sont peut-être les deux meilleures scoreuses de cette équipe-là. Je souhaite bonne chance à Jean-Aimé Toupane, parce qu'il s'est laissé qu'une option, Jean-Aimé Toupane. C'est champion ou échec. Donc,
et il a dit que ça serait un échec.
Voilà.
Ok, s'il n'était pas champion. Simon Dutin.
Oh, on a un peu l'impression que c'est le bal des faux culs, parce qu'effectivement, Toupane, il nous dit non, on n'a pas fermé la porte à Marine. Moi, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fermé la porte, effectivement. Alors, tu peux m'expliquer qu'il y a des règles, si tu veux. On sent que Céline Dumère, elle est un peu emmerdée, parce qu'elle est obligée de suivre la ligne de Toupane, mais elle a quand même sorti l'extincteur pour sa situation perso. Elle a dit, c'est une décision de Jean-Aimé Toupane.
Mais oui, c'est pas moi.
Elle a précisé, c'est pas ma décision. Après, Dumère, elle nous sert quoi? Elle nous dit, ouais, tu comprends, elle va rentrer, il y a le voyage, parce que elle va rentrer le 1er juin, mais ça fait deux jours de plus de raté avec le temps du voyage. Ouais, elle va rater quatre entraînements. Genre, c'est Marine Johannes, hein, c'est 108 sélections, plus de 1000 points en équipe de France. Je n'arrive pas à comprendre. Quand je dis balle des faux culs, parce que Johannes, elle dit, moi, je veux jouer l'Euro. On peut imaginer que, effectivement, elle se dit, moi, je déclare toujours ma fidélité à l'équipe de France. Je sais comment ça va se passer si je vais signer mon contrat. Je connais les règles. Je vais pas faire l'Euro. J'en fais pas un drame. Elle en a joué d'autres. Elle en jouera d'autres. Et elle sait que, évidemment, si c'était les Jeux, il la prendrait quand même et il s'assierait pas sur la discipline. Je lisais, moi, cette semaine, je faisais un petit peu de rattrapage là chez nos copains de SoFoot, tu vois, une interview de Romario, une légende brésilienne, tu sais, machin. On disait, ouais, vous aimez pas trop vous entraîner, nous. Non, j'aimais pas trop ça et tout. Et il t'explique, il dit, je suis désolé, quoi, les mecs qui te font gagner, les joueurs, les joueuses qui te font gagner les matchs, c'est normal qu'ils soient pas au même régime. Et je sais que ça peut insupporter certaines personnes, et notamment dans les grands discours, tu vois, l'éducation, la pédagogie dans les DTN, mais c'est la réalité. Je suis désolé, si Mbappé il doit s'absenter 3 jours avant de jouer la Coupe du Monde, on va pas lui dire, ah non, gros, tu viens pas à la Coupe du Monde. C'est on clair. Va se démerder, tu vois. Parce qu'il y a un régime d'exception. Marine Johannes, c'est une joueuse d'exception. Elle va signer son contrat. Oh, la pauvre, elle va rater 4 entraînements. T'imagines, elle a 108 sélections. Sérieusement, tu crois qu'elle va arrêter de savoir jouer au basket et d'enfiler les perles si elle rentre un peu fatiguée? Ça va. Si c'était une nouvelle joueuse en équipe de France, tu vois, une jeune espoir, une et tout, ouais. Une bleue, ouais, tu lui dirais, écoute, cocotte, tu sais, tu vas penser à l'équipe de France avant ta carrière. Marine Johannes, tu vas pas lui apprendre à jouer au basket. Et tu lui fais pas la leçon. Donc je pense que c'est un message envoyé, et je pense que tout ce petit monde sait très bien que si Johannes fait pas l'Euro, bon, elle sera de toute façon aux Jeux Olympiques, et en tout cas il faut l'espérer.
Réaction bien sentie de Tony Parker, c'est injuste ce qui se passe autour d'elle. Elle n'a pas loupé un rendez-vous depuis 2015. On veut l'équipe de France avec Marine. Elle est championne d'Europe et de France, et tu veux faire un Euro sans elle? C'est n'importe quoi. Nicolas Batum, l'ultimatum autour de sa tête. Je trouve ça dégueulasse. Elle demande une semaine pour gérer un truc contractuel et on lui met un ultimatum. On n'a pas beaucoup de gens de ce niveau. Elle est kiffée ici aux États-Unis. Arrêtez de faire chier, bordel.
Voilà, ouais, c'est dit.
La vraie
voilà.
Question, c'est aussi le calendrier, parce que nos adversaires, le championnat italien s'est arrêté depuis début mai, les Espagnols sont déjà en rassemblement, les Serbes aussi, et nous, on a poussé le calendrier, c'est la Fédé qui gère, avec une délégation à la Ligue féminine, mais c'est quand même la Fédé, et on pousse le calendrier jusqu'au bout. Si le rassemblement avait débuté il y a 10 jours,
on aurait pu faire conflit, son aller-retour. On a créé le conflit
on aurait pu se prémunir. Le mot de la fin.
Juste pour terminer, maintenant qu'on a fait ces débats-là pendant toute la semaine, je pense qu'il faut passer à autre chose. Maintenant, les joueuses qui sont là, les laisser tranquilles.
Elles peuvent venir ou c'est impossible?
Non, c'est terminé. Okay. Voilà, maintenant, concentrons-nous sur l'Euro avec les joueuses qui sont là, et on leur souhaite d'être championnes d'Europe.
Grave.
Ok, les copains, on va passer à autre chose. Est-ce que vous voulez le résultat du sondage?
Bah moi, j'ai voté. Du coup, j'ai voté Marc Johannes après le doyer de Simon Lutin.
Un peu de décence. Ah oui, t'as voté Marine Johannes?
Ouais.
T'as
changé d'avis? Ouais. Bah non, mais là, j'ai tout tenté, mais Simon a été trop fort. Il m'a convaincu, voilà.
Merci, ok, Marie. Il t'a convaincu, tu as le droit d'être retourné. On a donc fait un bras de fer où finalement tout le monde est d'accord.
Voilà,
eh bien, j'aime cette émission aussi pour ça, j'aime ce rassemblement.
Je propose qu'on fasse venir Suita et qu'on discute dans Marion Bartoli.
Bartoli Time.
Okay. Ouais, le dernier président de Fédé qui est passé chez Marion, il a sauté. Donc, est-ce que Jean-Pierre Suita va venir chez Marion?
Tu sais ce que je lui demanderais à Jean-Pierre, moi? Est-ce que ça vous ferait pas mal au cœur de voir Zidane avec le Brésil? Et là, je pense que Jean-Pierre, tu sais ce qu'il me répondrait, Jean-Pierre? Parce que Jean-Pierre, c'est un homme de coups. Il me dit quoi? Zidane.
Je vais prendre la même pointe, je vais prendre mon téléphone.
Voilà. Et on refait un remix comme ça tout le temps. Ce serait génial, une histoire sans fin. Bref, bon, on est resté à 90-12-8. Donc, on veut du Marine Johannes, mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. 10h27, merci beaucoup Arnaud Valadon d'avoir été avec nous. Un homme heureux, Pierre Amiche, va nous parler de Christophe Galtier. Et je sens que ça va être bien sans fil cette histoire.
Ah oui.
A tout de suite sur
RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h31, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Marie Martineau, Simon Dutin, Stephen Brun. Nous sommes ensemble jusqu'à midi dans une dizaine de minutes. Restez bien avec nous. Le débat caché, je vous ai préparé quelque chose d'absolument magnifique. Donc restez bien avec nous, chers auditeurs. Mais tout de suite, comme tous les samedis, les dimanches, à 10h30, on fait entrer Pierre Amiche.
RMC.
Quand je suis content, je vomis. Là, je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content. Content.
Pierre Amiche.
Pierre Amiche, bonjour.
Bonjour à tous.
Salut Pierrot.
Pourquoi heureux aujourd'hui?
Bah, je suis un homme heureux parce que Christophe Galtier va bien. Je veux dire physiquement, hein, ça va. Et puis techniquement, il est encore coach du PSG. Et puis c'est sa première semaine sans polémique depuis janvier. Autant dire qu'il savoure le mec, quoi. Je comprends. Par contre, il y a un truc qui me chagrine un peu. Je me demande. Personne lui a dit qu'il sera pas l'entraîneur du PSG l'année prochaine. Moi, je pensais que c'était clair, mais il met le doute. Ça fait 6 fois qu'il dit qu'il prépare la saison d'après. Au début, je pense que c'était une vanne, genre Philippe Croizon qui dit à JC, ouais, je vais te filer un coup de main, un truc très second degré, quoi. Par exemple, le 31 mars, 3 semaines après la gifle contre le Bayern.
Je me sens légitime d'être toujours l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je prépare, je le répète encore une fois avec Luis Campos et notre président, la saison prochaine.
Ou le 20 avril dernier, après avoir perdu contre Rennes et Lyon à domicile et avant de perdre contre Lorient.
Nous travaillons avec Louis sur l'architecture de l'effectif la saison prochaine avec les modifications que l'on souhaite apporter.
Mais je vous l'ai dit, hier en conférence de presse, franchement, il met le doute.
Nous travaillons. Nous travaillons sur la... heureusement. Heureusement que nous travaillons sur la saison prochaine. Ce qui va se passer à la fin de la saison, vous n'en savez rien.
Mais on a un doute.
Heureusement, encore heureux que le club travaille sur ce que doit être l'effectif la saison prochaine.
Mais arrête, Christophe! Tu vois bien que c'est pas possible! Parce que ton équipe joue très mal, qu'elle vient de faire la pire saison de l'RQSI, même les supporters viennent plus au parc. Et puis tu le vois comme nous, les 45 entraîneurs qui sont pressentis pour te remplacer. Tu le vois bien que le mercato il se fait sans toi, qu'on signe des mecs à qui t'as jamais parlé. Tu le sais que sur tes joueurs t'as l'autorité d'un prof de PS au mois de juin, qu'il y a plus un mec qui te regarde dans les yeux au camp des loges, que t'as plus de place de parking au Parc des Princes, que Nasser il te laisse en vue sur WhatsApp, tu le vois tout ça, hein, même les musiciens du Titanic ils étaient moins naïfs, ils continuent à jouer mais ils faisaient pas chier le monde avec leur prochain concert. Mais si, vous verrez, ce sera moins humide la prochaine fois, je vous promets. Puis c'est ouf, il y a une étude très sérieuse de l'Observatoire du football CIES qui rapporte que 57% des entraîneurs pros étaient virés cette année. Mais toi, non, on t'humilie jusqu'au bout. Le pauvre, il est en apnée la tête dans le sable depuis l'élimination face au Bayern. D'ailleurs, si un jour j'ai une autruche, je l'appelle Christophe Galtier. Après, reste la possibilité que ce soit purement et simplement de la com. Hein, tout le monde fait semblant pour pas se mettre à la faute. Ça devient un jeu de rôle un peu ridicule. Alors toi, tu vas faire comme si t'étais encore l'entraîneur. Moi, je vais faire comme si j'étais encore un club structuré et cohérent. Bon, on verra après. Non, parce que maintenant, il y a 2 possibilités. Soit Galtier est encore l'entraîneur l'an prochain, et c'est un miracle, mais ce serait un signe de faiblesse de dingue de la part du club parisien qui accepterait de garder un entraîneur après une saison ratée et surtout après avoir viré tous les autres. Soit... Galtier n'est plus l'entraîneur, ce qui semble être le chemin que prend le Paris Saint-Germain. Et à ce moment-là, celui qui va débarquer n'aura pas son mot à dire sur le recrutement et ce sera un signe rare de bêtise. Surtout, on repart sur un délire où le patron, c'est pas vraiment le patron et on recommence avec un entraîneur qui choisit pas ses joueurs, un directeur sportif qui choisit pas l'entraîneur, un président perdu qui comprend pas pourquoi ça marche pas. Dans cette recherche de l'homme providentiel qui dure depuis 10 piges, qu'aura coûté la tête de Ancelotti, Tourelle, Emery, Pochettino, Laurent Blanc, le PSG apprend jamais de rien. À chaque fois, c'est la même musique de juillet à avril et on repart encore et encore et encore. Et j'arrive pas à comprendre. Je suis pas un grand penseur du foot, je connais pas le fonctionnement d'un monstre, une entreprise comme un club de foot. Mais comment le club ne se remet pas en question, ou en tout cas son fonctionnement, plutôt que de couper la tête à des pauvres types qui sont à la barre? Parce qu'être entraîneur du PSG, c'est être comédien, psychologue, assistant social, expert en com, démineur, négociateur, parlementaire. Tu fais tout sauf être entraîneur, en fait. On te demande ton avis sur la crise climatique, le festival de Cannes, tes joueurs sont ingérables parce qu'ils savent que veille de match, ils peuvent faire un live Instagram à 3h du matin et une table de poker à Vegas. Il se passera rien. Et on s'étonne encore que personne n'y arrive. Le prix Goncourt, Didier Van Coverlaert écrivait « La politique de l'autruche est respectable, tout dépend de ce qu'il y a dans le sable ». Bon, probablement un gros chèque pour Galtier. Ah, au fait, c'est une connerie. Hein. Elles ont un tout petit cerveau, mais même l'animal le plus teubé du monde ferait pas ça. Les autruches mettent pas la tête dans le sable. Quand elles ont peur, elles se tirent. D'ailleurs, QSI est candidat au rachat de Manchester United, la Sampdoria, Malaga, Santos, le Red Star, le Paris Football Gay, le Leroy Merlin de Châle. Ah, mais c'est ça le truc qui prépare l'année prochaine. Moi, je captais pas. Bon, là, tendance à reconversion en tant que conseiller vente. Il reste deux matchs à jouer et un titre à aller chercher. Aveugle ou pas, Galtier, détesté, honni, critiqué, moqué, sera quand même champion de France pour la deuxième fois.
Ouais, et ce sera ce soir sur la pelouse de Strasbourg avec un multiplex de la 37e journée à suivre évidemment en direct en intégralité sur RMC. C'est les 10 matchs à suivre sur notre antenne. Question pas facile parce qu'à chaque fois je vous demande si vous êtes heureux ou en colère. La situation de voir Christophe Galtier comme ça, heureux ou pas heureux? Je vous pose quand même la question. Simon Dutin.
Je suis pas heureux.
Marie Martineau.
Non, je ne suis pas très heureuse.
Stéphane Brun.
Ouais, heureux.
Marion Bartoli.
Ouais, non, je suis pas heureuse de pauvre. J'aime la pitié pour lui, franchement.
Ok, Stéphane, tu commences, pourquoi?
Je sais pas, c'est la situation normale d'un entraîneur de Paris Saint-Germain qui a foiré sa saison. La com, elle est normale. Lui, il veut prendre son chéco. Vous voyez Galtier débarquer, dire voilà, l'année prochaine, je suis plus là, et prendre tout le monde à contre-courant, et se mettre en faute, et finalement partir avec le jogging Jordan seulement, et pas le, et pas le chèque. Lui, tant qu'on lui a pas signifié son licenciement, il fait comme s'il était encore là. C'est logique.
Pragmatique.
Voilà, lui, enfin, c'est quand même un grand garçon, Christophe Galtier. Hein. Il sait l'année qu'il a vécue, il sait ses résultats en Champions League, il sait le jeu qu'il a proposé sur le terrain et les problèmes qu'il a dû gérer toute l'année. Il est bien conscient qu'il va être champion de France, oui, et ça il faut le noter. Mais il a fait une saison triste à mourir, Christophe Galtier. Donc voilà, maintenant, je ne veux pas plaindre un mec qui est à la tête du Paris Saint-Germain, avec un salaire confortable, qui a une belle situation et qui retombera sur ses pattes parce que Christophe Galtier va recoacher un bon club de foot en France ou en Europe.
Oui, mais donc, il est peut-être passé à côté de quelque chose de grand pour lui, pour sa carrière. Ça devait être aussi.
C'est super rien, moi, c'est sa faute.
Non, mais est-ce qu'il y a un petit peu de compassion? C'est aussi ça l'idée. Parce que cette semaine, on a vu plusieurs noms d'entraîneurs circuler pour remplacer Christophe Galtier, notamment Xabi Alonso.
Il n'est pas rookie dans le métier, Christophe Galtier. Il a déjà vécu cette situation-là. Et parfois même.
Pas lui, à ces altitudes-là, Stephen.
Parfois même, lui, il a été de l'autre côté. C'est-à-dire que son nom était annoncé dans des clubs où il y avait déjà un coach en place. Enfin, il connaît le business, Christophe Galtier. Okay. Il n'est pas surpris.
Ça fait partie du job, Simon?
Cette semaine, c'est marrant parce que dans Génération After, avec Nicolas Jamain, on a fait un débat sur le PSG et sur Direct Studio. Il avait énormément de messages, Nico, de supporters du PSG qui disaient, Galtier, s'il reste, il n'y a pas de problème. Nous, on veut virer tous les mecs qui jouent pas le jeu, tout ça. Bon, il savait où il mettait les pieds, Christophe Galtier. C'est un des rares moments. Moi, effectivement, on a souvent dit, il n'était pas fait pour, on l'avait dit, c'était pas le coach qu'il fallait et tout. Paris, c'est quand même le seul club où les supporters édifient des barricades dans la rue pour faire la révolution, alors qu'ils vont être champions de France en ayant été leader de la première à la dernière journée du championnat, ce qui n'a jamais été fait. On oublie que lorsqu'il a fallu battre Lens, qui va finir deuxième, ils leur ont mis une petite leçon. Ils sont allés mettre 3-0 à Marseille au Vélodrome. Il y a eu un début de saison exceptionnel où ce trio de stars marchait bien. Après, il a été effectivement victime, je pense, d'un vestiaire qui est un peu lâché suite à la Coupe du Monde et à la Ligue des Champions. Moi, je pense que effectivement, ils vont changer. Il y a pas de doute. En revanche, l'été dernier, Luis Campos, le fameux génie du football, qui nous explique que le projet, ça va passer par Galtier et pas avec un entraîneur plus clinquant, machin, et qui en fait l'a lâché à la première occasion, alors que justement, moi, je connais le foot, Galtier, le recrutement, les Solaires, les Fabian Ruiz et tout ça, ça va marcher et tout. Je pense que Campos, si il était cohérent et qu'il avait un peu de respect pour ce qu'il nous a annoncé l'été dernier, il devrait quitter le navire en même temps que Galtier et assumer son choix jusqu'au bout.
Ok, Marion Bartoli.
Non, mais moi j'ai un petit peu de compassion parce que j'ai du mal à me dire que tout est de la faute de Christophe Galtier. Et effectivement, alors il y a eu des incohérences en termes de niveau de jeu, il y a eu des incohérences en termes de recrutement, ça c'est certain, mais c'est plutôt Campos, comme l'a dit Simon, qui s'est absolument planté sur deux mercato d'affilée. Alors lui, il est couvert parce que c'est Kylian qui l'adore, donc du coup il va garder son poste. Mais ça va être quel entraîneur qui va prendre le projet en cours de route. Alors le Qatar rêve de Zinedine Zidane, mais est-ce que c'est faisable? Ça reste encore à démontrer. Mais pour moi, de le voir aujourd'hui, il est quand même non élu non sélectionné, on va dire, dans les 5 coachs présentés au trophée UNFP, ce qui est une rareté pour un coach du Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari. Donc, on va dire qu'on lui remet toute la faute dessus en disant « t'as été mauvais, t'as été nul, t'as été capable de gérer ce vestiaire, etc. » Mais quand on analyse, et j'adore l'analyse de Simon, effectivement, le début de saison a été extrêmement positif. On revient de la Coupe du Monde pour déjection X, Y et Z. Il y a malheureusement pas mal de joueurs qui ont lâché la rampe pour des problèmes différents. Mais il s'est retrouvé avec un effectif qui était vraiment décimé. Et à partir de ça, tu joues contre le Bayern. Et effectivement, tu prends une fessée aller-retour, mais surtout en proposant rien. Et la saison s'écroule à partir de là, parce que si tu ne gagnes pas la Champions League quand tu es le PSG, tout vaut rien. Alors oui, il y a eu plus de défaites que d'habitude en Ligue 1, mais ils vont quand même être champions. Et de me dire qu'il prend tout, et puis en plus, effectivement, il a eu cette attaque personnelle hors terrain, qui lui a quand même beaucoup nuit, où je pense qu'il a été énormément touché. Donc je me dis que de encore, pour reprendre l'expression de Gaël tout à l'heure, de shooter sur quelqu'un qui est complètement à terre, j'ai pas envie de faire ça. Donc oui, si tu fais une analyse effectivement très cartésienne, tu dis OK, va prendre 10 millions d'euros d'indemnité environ. Le PSG a payé 8 millions d'euros à Nice pour le faire venir. Ils vont s'en départir au bout d'un an en payant 10 millions d'euros. L'opération financière, pas top. Mais tu te dis qu'en tant qu'humain, avec tout ce qu'il a pris dans la figure, moi, franchement, j'ai pas envie d'en rajouter.
Quel long chemin de croix, hein. Ça fait 3 mois qu'ils sont sortis de la Ligue des Champions, hein. On a l'impression que ça n'en finit plus cette saison pour le Paris Saint-Germain. Marie Martineau.
Moi, j'ai gardé le même coach de mes 9 à 35 ans. Ça a été la cheville ouvrière de ma réussite. Je lui dois absolument tout, il le sait, je l'ai souvent dit. Et je ne conçois le sport à haut niveau qu'à travers les relations humaines et les relations que tu peux nouer avec ton staff. Je crois que c'est le chemin que tu parcours qui est juste extraordinaire. Et quand tu arrives à la réussite, au sommet, il est partageable avec ces gens-là et c'est juste merveilleux. Alors, ça paraît dénoté comme discours là au milieu du football, mais je suis désolée, je ne comprends pas le principe du football. Je ne comprends pas la construction d'une équipe avec un siège éjectable comme ça. Et j'ai l'impression que on en parle là pour le Paris Saint-Germain, mais je crois que si on cherche un peu, on peut faire les mêmes constats sur pas mal d'autres clubs. Donc ça me dépasse. J'y sais, je ne sais pas quoi te dire d'autre que. Pour moi, c'est on parle d'un truc que je suis incapable de comprendre.
C'est de la science-fiction.
Donc, il me fait de la peine, parce que même s'il part avec ses 10 millions, ben oui, je suis malheureux. Enfin, je suis un peu tristoun pour lui parce que je crois foncièrement qu'au départ, il a cru en ses chances et en la capacité de d'instaurer quelque chose qui fonctionne. Et voilà. Mais a priori, rien ne dit qu'il ne sera pas encore là l'année prochaine. Pourquoi pas? Ils font des choix tellement bizarres que.
Toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr avec les différents choix de coach, notamment José Mourinho dans la shortlist, Thiago Motta ou encore Xabi Alonso,
c'est
que nous vous avons sorti cette semaine. On revient dans quelques instants, restez bien avec nous, il est 10h44, c'est très important.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi,
Jean-Christophe Drouet.
10h47, on est de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi. À partir de 11h, nous allons passer la seconde autour du Grand Prix de Monaco et de Charles Leclerc. La malédiction Charles Leclerc, croyez-vous au blocage psychologique? Et puis nous recevrons notre invité, c'est Maxime Sorel, skipper. Il a gravi l'Everest la semaine dernière et il veut nous parler de cette expérience hors du commun et parfois effroyable. Ce sera également à partir de 11h. Mais tout de suite, c'est l'heure du guet-apens.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant... elles vont devoir tout vous dire pour la première fois à la radio française. Un débat caché, un piège pour vous les GG. Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer?
Non.
Le guet-apens du jour. C'est ça. Ça arrive de loin, mais ça arrive.
La production américaine. Hein,
c'est ça.
Ça traverse l'Atlantique.
Marcel Desailly au second poteau. Et but de Voli. But de Vasile Voli sur ce corner.
Vous avez
Je veux
tous
la musique jump tout de suite, s'il vous plaît.
Pas du tout.
Si.
Vous avez tous reconnu cet extrait. Hier, le 26 mai 2023, Marseille a célébré les 30 ans du titre de l'OM en Ligue des Champions. C'était le 26 mai 93. De nombreuses festivités ont eu lieu dans la cité phocéenne, avec notamment le craquage de fumigène sur plus de 20 km tout le long du littoral. Image absolument spectaculaire et dingue. Une fête gigantesque pour se souvenir de ce moment d'histoire, le raconter encore et encore. Preuve aussi... malheureusement que Marseille et le foot français n'a pas eu grand chose depuis à se mettre sous la dent.
On s'en fout.
Notre question, Marseille, en fait-il trop? C'est provoque avec ce titre. Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Stéphane Brun?
Non, je ne crois pas.
Personne ne va oser y aller. Marion Bartoli.
Mais bien sûr que non.
Marie Martineau.
Mais c'est tout eux, quoi. C'est le Sud, c'est Marseille. Ils en font toujours trop. C'est leur ADN. Non, ils en. Ouais, oui, tu sais quoi, oui, ils en font trop.
Ok, notre correspondant à Marseille est avec nous, c'est Florent Germain. Il a suivi ça de près. Salut Florent.
Salut JC. Salut les amis, salut à tous.
Et Laurent, viens défendre l'OM, s'il te plaît.
Question provoque, mais j'emmènerai aussi ce débat sur Yannick Noah. Les 40 ans, on fête, on est très nostalgique en France parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Raconte-nous déjà cette fête et la célébration des héros, Florent.
D'ailleurs, est-ce que c'est de la faute de Yannick Noah si ça n'a pas gagné derrière lui? La réponse est non. Donc, c'est pas forcément de la faute de l'OM si ça n'a pas gagné derrière, en tout cas pour les autres clubs français. Écoute, rassemblement à l'Hôtel de Ville, c'était le début des festivités hier sur les coups de 17-18h. Bon, évidemment, pour Benoît Payan, le maire de la ville, c'est un peu du velours hein, de surfer sur la fierté d'aimer l'OM, d'avoir l'étoile. Il s'est présenté sur le balcon, il y avait le trophée, il y avait beaucoup de joueurs de la finale de 93, Éric Dimeco évidemment, Basile Boli, Alain Bokstik, Fabien Barthez, Andeloma et d'autres. Une voile gigantesque devant l'Hôtel de Ville, à jamais les premiers. Il y avait également la famille de Bernard Tapie pour confirmer que notamment une statue verra le jour dans quelques années. Il y a un appel aux dons qui a été lancé pour une statue de bronze. En tout cas, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait toutes les générations, notamment au moment de la diffusion du match, parce que le match a été rediffusé dans son intégralité. Il y avait quasiment 10 000 personnes au bout d'un moment, donc c'était assez extraordinaire. Et voilà, deux générations. Écoutez, Jean-Michel, Bob des Ultras sur la tête, lui, il était à Munich avec son père il y a 30 ans.
J'étais à Munich avec le padré, oui, on était à Munich, on criait « Vaffanculo, Milano, Milano, Vaffanculo !» on criait. Et regarde, j'ai les poils, chaque fois que je vois l'OM, chaque fois que j'entends la Champions League, chaque fois il me viennent les poils, et ça, tu peux pas. On te dit « Oh, la naissance de mes enfants, le plus beau jour, le... » Oui, il y a les plus beaux jours, mais le plus beau souvenir, c'était celui-là. Voilà, c'était celui-là. « Allez, les Marseillais, ensemble on a marqué, allez, les Marseillais, à jamais les premiers !»
Oh, les bons Jean-Michel.
Bon, Jean-Michel.
Ça veut dire quoi ce qu'il disait en italien
Je sais pas, j'ai pas la trad, j'ai pas la trad. On demandera à Igor Tudor tout à l'heure. Écoute, voilà. Donc, et ça, c'était un ancien entre guillemets qui l'a vécu de ses propres yeux. Et vraiment, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait, je pense, plus de jeunes de moins de 30 ans, de moins de 20 ans, qui étaient là hier soir. Tous, je veux clore le débat là-dessus. Ils veulent vivre ces mêmes émotions aussi de leurs propres yeux. Hein. On dit Marseille vit dans le passé. Bon, depuis quand même, il y a eu 3 finales de Coupe d'Europe, un titre de champion, donc il y a eu quand même quelques petits événements, sauf que Marseille vit avec l'exigence de regagner un jour, pourquoi pas, cette C1, et la souffrance de voir qu'ils en sont loin, mais les jeunes, ils ont bien été éduqués par les papas, parce que Will, qui est étudiant, il connaît tout de ce 26 mai 93, écoutez.
Si votre père avant votre naissance il a été ballon d'or, vous serez fier de lui quand même. Bah, c'est pareil, Marseille c'est comme ma mère. Elle a fait des choses avant que je sois là et je suis fier de ce club à jamais. C'est notre fierté, pas le choix. L'héritage laissé par les anciens, ils nous en parlent depuis qu'on est né. On l'a vu que sur des cassettes, j'ai revu et revu le match. Mon père il me raconte que des choses comme ça de ces époques là. Du corner d'Abedi Pelé, la tête de Basile Boli. On a les références. Je connais même la minute à laquelle a été mis le but, à la 44e. L'étoile elle est là et elle peut pas tomber. Reste là.
Voilà, elle tombera pas à l'étoile, évidemment. Et après le clou du spectacle, tu en as un peu parlé, JC, c'était, écoutez, sur les coups de 23h, des fumigènes, des feux d'artifice qui ont été lancés d'un peu partout depuis les côtes et le littoral marseillais. Il y avait le sentiment hier, en fait, qu'il y avait un match à Marseille, parce que tout le monde avait le maillot. Et puis, il y avait des allures de 14 juillet, en fait, parce que tout le monde s'était positionné au bon endroit, au bon moment pour voir ce spectacle. 8000 fumigènes, 20 kilomètres de feux d'artifice, de la Pointe Rouge à l'Estac. Et chapeau à celui qui a eu l'idée de se positionner dans la grande roue, parce que c'est lui qui fournit sûrement l'une des plus belles vidéos, avec un malin qui a filmé depuis un avion, donc vue aérienne magnifique, oui. Ou depuis l'île du Frioul. C'était très sympa, en tout cas, des images magnifiques. Et ce soir, il y aura également un tifo géant dans le Vélodrome sur l'ensemble des quatre tribunes. 67 000 papelitos ou 7 de table, comme on dit, pour un tifo en l'honneur du 26 mai 93.
Allez voir hein, toutes ces images sur rmc-sport.fr, c'est absolument magnifique. Notre question provoque ce matin, merci beaucoup Florent Germain pour ce résumé très complet. Est-ce que Marseille en fait trop avec ce titre? C'était il y a 30 ans, il faut peut-être passer à autre chose, ou en tout cas essayer de vivre avec le présent. Oui, non, c'est plutôt... J'ai un petit oui quand même de Marie Martineau, vas-y.
Ouais, t'es un bel enfoiré avec ta question. mais je suis hyper pro, donc je vais y aller. Oui, bien sûr qu'ils en font trop. Alors, je les aime pour ça, mais évidemment qu'ils en font trop. trop 30 km de fumigène, les politiques qui récupèrent le truc et qui s'aspergent comme ça de cette victoire qui a 30 ans, les gens qui te sortent, j'ai noté c'était plus beau que la naissance de mes enfants, Marseille c'est ma mère, enfin on est dans un délire mais je comprends le truc hein, c'est un délire d'engouement populaire, c'est un truc rassemblant. Alors oui, ils en font trop, et en même temps je trouve que c'est bien parce qu'on parle quand même souvent aux infos de Marseille pour les problèmes qu'il y a dans le quartier nord, les fusillades, les machins, alors que c'est pas ça Marseille. Et donc là ça fait du bien que pour une fois, allez, bon bah ils ont leur week-end de fiesta, de folie, de d'engouement et de gens qui se prennent par la main, qui se kiffent. Alors forcément les pouvoirs publics doivent se mettre à la hauteur de l'engouement populaire qui était annoncé, donc voilà tout ce qui va se passer et ce qu'il se passe sur ces deux jours.
Après Marie, tu as dit tout à l'heure sur le débat de Galtier que toi tu étais très loin, déconnecté de ce monde du football là, et tu peux pas justement comprendre la passion.
Oui, c'est pour ça.
Et Marseille, mais dans toute l'Europe entière, il y a des clubs comme ça qui vivent football et je trouve que la transmission, parce que si Marseille a un public comme ça, génération après génération, c'est parce qu'il y a eu cette transmission du titre de 93, et c'est important dans l'histoire du club. Et puis cette histoire d'étoile, moi je suis content qu'il l'ait, parce qu'aujourd'hui c'est leur dernier argument pour chambrer les Parisiens, tu vois, quand ils n'arrivent pas à gagner, mais il n'y a jamais les premiers. Je pense que c'est important pour eux d'avoir cette étoile là et j'espère qu'ils la regarderont jusqu'au bout.
Il y a aussi le public comme argument quand même hein.
C'est-à-dire
la ferveur que dégage un match au Vélodrome quand même, hein. Tu dis qu'il n'y a pas que l'étoile,
mais t'es d'accord avec moi Flo que quand il y a un Parisien face à un Marseillais et que ça commence à se chambrer gentiment, quelle est votre dernière prise de parole? J'avais les premiers.
Rapidement Marion sur le sujet.
Non mais bien sûr, alors mon père est Marseillais, il est né à Marseille, a fait toute sa vie à Marseille, toutes ses études à Marseille, donc je peux vous en parler de Marseille pendant très longtemps. Cette ville ne respire pour le foot, cette ville vit pour le foot. Quand il y a un match au Vélodrome, la ville s'arrête. Donc bien évidemment qu'en plus c'est le seul club en France à avoir été capable de le gagner. Ça fait 30 ans qu'il n'y en a pas un autre. Donc bien sûr,
oui,
c'est un anniversaire
particulier.
Mais
ça dit beaucoup de notre sport aussi, sport français.
Mais c'est compliqué, il y a une Champions League, on le sait très bien. C'est réservé quand même à une élite de clubs. Mais on parle de Marseille, mais regardez à Napoli, regardez les fêtes à Napoli. Ça fait partie aussi de la culture méditerranéenne, de la culture du Sud, d'avoir cet engouement pour ces clubs de foot. Et pour moi, quand je revis, quand je revois les images, la tête de Basile Boli, on recommentait le match hier, ça n'a pas pris une ride, mais ça n'a pas pris une ride. On sait comment ça va se passer, mais on le regarde tous parce que c'est tellement un moment particulier. Et tu parlais de récupération politique. Quand les Français sont champions du monde, il n'y a pas de récupération politique. Bien sûr que le foot est totalement lié, et de toute façon, n'importe quel sport est lié à la politique. Donc pour moi, c'est absolument logique. On a été les seuls à être capables de le faire. Et oui, on chambrera les Parisiens jusqu'à ce que peut-être un jour, dans 50 ans, ils la gagneront. Mais en attendant, on n'a été jamais les premiers.
Voilà, eux seront à jamais les deuxièmes. Voilà, s'ils sont deuxièmes, il y en aura peut-être un autre. Simon, vraiment 10 secondes, pardonne-moi, et je te jure, on en
parle de Girondins.
Bah moi je suis bordelais, effectivement c'était nos ennemis, ils m'ont fait rêver, on oublie que on pensait qu'ils l'auraient gagné avec Papin, Waddle et l'équipe mythique, ils perdent 2 ans avant en finale à Paris, et là ils l'ont gagné en 93. Bon effectivement on oublie un peu qu'à l'époque tu sortais des poules et t'allais direct en demi-finale, hein, mais bon depuis la compétition, la densité de la compétition a augmenté, c'est devenu de plus en plus dur, mais ce soir-là, ils battent une équipe qui était imbattable, il aurait pu y avoir 5-0 à la mi-temps pour l'AC Milan, ils font un véritable exploit, et c'est normal, c'est une des plus grandes compétitions de dans le monde du sport, et c'est
okay,
normal
mais quand qu'on en tire une fierté. On vous propose ce débat, et on vous a proposé ce débat aussi, parce que tous les grands clubs aujourd'hui, bah faites pas à chaque fois les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans.
Autant
les fêter quand les acteurs principaux sont encore en vie, parce qu'une fois qu'ils vont disparaître, c'est plus compliqué.
Ok les copains, merci beaucoup Florent Germain, c'était important de parler de l'Olympique de Marseille avec ce soir l'OM.
Ciao Flo, n'oublie pas, j'avais les premiers Flo.
Allez, à tout de suite sur RMC, ce sera le Grand Prix de Monaco.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.